France Inter.
Come As You Are, Kurt Cobain et Nirvana sur une petite scène privée, celle des studios de Sony Music situés au cœur de New York le 18 novembre 1993 devant une assistance choisie, quelques centaines de personnes serrées autour des musiciens qui donnaient ce jour-là un concert filmé par les caméras de la chaîne de télévision MTV pour la série Unplugged. Le principe de la série lancée en 1989 était simple, certains se la rappellent certainement. Chanteurs et groupes acceptaient de venir avec un matériel léger et jouaient entre guillemets débranchés, hein, comme s'ils répétaient chez eux dans leur salon, sans amplification ou presque. Et c'est par la grâce de cette série que Eric Clapton, dont l'étoile avait quelque peu pâli dans les années 80, que Eric Clapton avait fait un retour éblouissant en 1992, et d'ailleurs l'album qu'il avait tiré de ce concert privé qui avait été capté quant à lui dans un studio de cinéma en Angleterre, c'était à Windsor, à l'ouest de Londres, simplement intitulé Unplugged, a été un des plus vendus au cours des années 90, tout comme celui de Nirvana, Unplugged in New York, paru à titre posthume 6 mois après le suicide de Kurt Cobain, c'est-à-dire à la fin de l'année 1994. Cobain, auquel je consacre cette semaine une série de Very Good Trip sur France Inter, 30 ans après la disparition brutale du chanteur. J'ai choisi de vous faire entendre ce soir de nombreux extraits de ce concert historique, donc MTV Unplugged, historique à plus d'un titre. Inattendu, totalement inattendu déjà, puisque Nirvana est un groupe qui, à ses débuts, déversait sur l'auditeur une avalanche de sons, des sons amplifiés à l'extrême, délibérément saturés, zébrés de Larsen. Quant à Cobain lui-même, eh bien, il hurlait comme s'il voulait détruire sa voix, et il rendait, c'était délibéré également, les paroles de ses chansons complètement inintelligibles. C'est bien sûr à nuancer, parce que quand même, quand le groupe a enregistré en 1981 l'album qui l'a rendu célèbre, Nevermind, Cobain avait déjà entraîné le style de Nirvana dans une autre direction. Il tenait à ce que ses chansons, dont il était l'unique compositeur et parolier et interprète, hein, je le rappelle, soient à leur façon accessibles à tout le monde, aux petits comme aux grands, hein, comme on dit, grâce à la séduction de leurs mélodies. Pratiquement toutes les chansons de l'album Nevermind, vous pouvez les chantonner ou bien vous pouvez, je sais pas, les reprendre en folk, en reggae, en bossa nova, tout ce que vous voulez, ça marche parfaitement. Et déjà, Cobain alternait, je parle de Nevermind, au sein d'un seul et même titre, deux types de voix, une hurlante et une autre, calme et pour ainsi dire désolée. Vous prenez le cas de la chanson la plus connue du groupe, Smells Like Teen Spirit, on l'a entendu hier, ou encore de Lithium, ça s'applique. On pourrait dire que de certaine façon, en chantant, en alternant deux types de chants, Cobain préparait son coup. Parce qu'il y a autre chose de frappant dans la préparation de ce concert, entre guillemets, Unplugged de la fin de l'année 93, qui a eu lieu, donc je vous le rappelle, un peu moins de 6 mois avant le suicide de Cobain, c'est le décor. On pourrait même parler de mise en scène. On remarque, posé par terre, sur un grand tapis aux motifs fleuris, plusieurs bouquets de lys blanc et des chandeliers sur lesquels brûlent des cierges. Comme pour une veillée mortuaire, fait remarquer à Cobain le responsable du plateau de MTV qui est chargé d'exécuter les consignes. « Exactement », répond le chanteur. Cobain, qui aimait souvent faire le clown sur scène, n'est pas du tout là pour rire. Il est extrêmement sérieux, très concentré, il sourit très très peu, de façon fugitive. Et il articule les paroles de ses chansons comme il n'a jamais pris la peine de le faire. Bien sûr, il ne s'agira pas de l'ultime concert de Nirvana, puisque le groupe allait partir un peu plus d'un mois plus tard, à l'hiver suivant, pour une longue tournée européenne, donnant d'ailleurs 5 concerts en France en février 1994. Ceci d'ailleurs figure parmi les derniers du groupe, puisque l'ultime fois qu'on a vu le groupe sur une scène, c'était en Europe, c'était le 1er mars 1994 à Munich, et Cobain semble apparemment en pleine forme. Et pourtant, un mois plus tard environ, au début du mois d'avril, Cobain se tirait une balle dans la tête dans un appentis de sa maison de Seattle. 3 semaines déjà, après une première tentative de suicide à Rome, en Italie, où lui et sa femme, Courtney Love, passaient quelques jours après la fin de la tournée européenne. Et le suicide de Cobain est intervenu 2 jours après qu'il se fût enfui en escaladant les murs de la clinique où, sous la pression de son entourage, il suivait une cure pour se désintoxiquer de l'héroïne. Une drogue qui, c'était pas la seule d'ailleurs, était devenue son refuge. En tout cas, quand on écoute ce concert exceptionnel de décembre 1993, Unplugged in New York, il est tentant d'y entendre une sorte d'adieu prémonitoire. À quel degré de conscience ou d'inconscience, c'est évidemment très difficile à savoir. I can't. Something in the Way, c'était bien sûr Kurt Cobain et Nirvana, dans une version d'une chanson qu'on connaît, elle figure dans l'album Nevermind, interprétée en novembre 1993 pour les besoins de la série MTV Unplugged. Je vous en ai décrit tout à l'heure les conditions, le décor, l'état d'esprit aussi d'une certaine façon. Alors les trois membres de Nirvana ne sont pas seuls. Le batteur Dave Grohl est là, bien sûr, il frappe doucement son instrument au balai, hein, le plus souvent. Chris Novoselic est assis, il joue d'une basse acoustique qui passera d'ailleurs à un moment à son camarade Grohl pour un titre inattendu, on l'entendra, dans lequel Chris se met à l'accordéon. Et oui, d'autres musiciens les accompagnent, je vous disais, à la guitare sèche jouée en rythmique, il y a les frères Kurt et Chris Kirkwood, deux amis de Cobain qui ont fondé à Seattle un groupe du nom de Meat Puppets. Et vous avez aussi entendu dans ce titre un violoncelle joué par une musicienne également de Seattle qui s'appelle Laurie Stanton. Il faut préciser qu'il y a un détail qui a son importance. Kurt Cobain n'a pas tout à fait respecté les règles du jeu des concerts unplugged organisés par MTV, qui sont censés donc présenter des groupes qui jouent sur des instruments au son acoustique pur et sans déformation. Il a en effet dissimulé dans un de ses caissons noirs, abritant habituellement ce qu'on appelle un retour de son, un petit pédalier d'effet qui déforme en toute discrétion le son de sa guitare acoustique. Cobain l'actionne pour certains titres sans que le public le voie, alors peut-être qu'une partie de la tension qu'il exprime vient aussi de son malaise par rapport à ce dispositif qu'il a occulté. En tout cas, ce qui frappe dans ce concert extrêmement particulier, c'est la concentration, je vous disais, de Cobain. Il a la tête de quelqu'un qui a pris une décision très ferme, en connaissance de cause, mais qui pour autant ne semble pas particulièrement heureux de l'exécuter. On voit son visage en pleine lumière, il est pour ainsi dire à nu, sans protection, et dans son attitude, dans son corps, dans sa présence, il n'y a pas le moindre jeu. C'est-à-dire qu'on a l'impression de voir quelqu'un de seul, en contact avec ce qui est de plus profond en lui, et c'est pas très plaisant, c'est très intense. Something in the Way, qu'on vient d'entendre, est une des plus belles, des plus puissantes chansons de Nirvana. On l'entend à la fin de Nevermind, c'est une sorte de blues désolé, dans lequel Cobain se met en scène comme un vagabond abandonné de tous, vivant sous un pont où il s'est réfugié, un être humain réduit à la condition d'un animal errant et malade, rejeté de tout le monde, et dont la vie est, pour ainsi dire, de trop. Pour continuer, toujours une chanson extraite de ce concert extraordinaire, donc extraite du troisième album de Nirvana, celle-ci que vous allez entendre, In Utero, une des plus dérangeantes sans doute à avoir jamais été écrite et interprétée par Cobain, une chanson qui s'appelle Dumb, un adjectif qu'on peut traduire par muet ou stupide, et une chanson un adjectif qui évoque une certaine forme d'abrutissement qui nous atteint tous quand on s'absorbe pendant des heures dans une activité qui nous permet de plus penser à rien, de ne plus rien sentir et d'oublier en somme qu'on existe. J'ai le cœur brisé, dit le personnage de la chanson à un moment, mais ça va, j'ai de la colle. Vous remplacez la colle par l'alcool, une série télé, les réseaux sociaux à outrance, et tout le monde est concerné, évidemment. Et Cobain, il l'a souvent dit, il l'a souvent écrit, Cobain tombait durablement dans ce genre d'état, à un point de dégoût de lui-même et d'autodétestation tel qu'il finissait par oublier pourquoi il était en vie. Cette chanson Dumb est sans doute une de ses plus personnelles. Happy. Think I'm-
Sur France Inter.
Yeah.
Heart-Shaped Box, une chanson signée par Nirvana, sans doute la plus populaire de l'ultime album, le troisième In Utero, qu'a publié le groupe de son vivant, si l'on met bien sûr à part la compilation Incesticide, dont je vous parlais hier, qui était paru en 92. Oui, Heart-Shaped Box, c'est vraiment une de ces ballades typiques de Nirvana, comme écrasée sous un ciel de plomb. Alors, voici un peu le contexte de la chanson. Courtney Love, la musicienne dont Cobain partageait la vie, gardait, paraît-il, des sucreries dans des boîtes à bonbons en forme de cœur, Heart-Shaped Box, et dans une série d'images assez dérangeantes que Cobain égrène dans cette chanson, une orchidée carnivore, un nœud qui se referme sur lui, Cobain traduit en fait sa vision angoissée de la sexualité, l'asservissement d'un homme fragile à une femme à la personnalité dominante, comme l'était Courtney Love. Il l'aime et en même temps, il sent qu'elle l'emprisonne, qu'elle l'écrase. Peu d'hommes, auteurs de chansons, sont parvenus à exprimer ce couple de forces contradictoires qui peut traverser un homme quand il a, comme on dit, une femme dans la peau. Les circonstances dans lesquelles Cobain et Nirvana ont enregistré l'album In Utero sont assez particulières et je vais vous les rappeler en deux mots. Après le succès massif de Nevermind, qui, je vous le rappelle, est sorti à la fin de l'année 91 et qui surtout a triomphé dans le monde entier en 92, Cobain, qui n'en est pas à une contradiction près, se sent d'une certaine façon coupable. Oui, en tout cas, mal à l'aise. Le succès, bien sûr, il l'avait désiré avec ardeur. Il a même tout fait pour l'obtenir. Mais soudain, c'est trop. Oui, c'est trop. Nirvana et le mouvement grunge représentent une sorte d'anti-mode qui supplante la mode. Et Cobain a l'impression d'être illégitime, d'être un imposteur, d'être devenu une marque, de s'être d'une certaine façon prostitué. Il souhaite se retrouver. Il souhaite que Nirvana revienne à ses sources hardcore, pure et dure, celle de l'album Bleach, d'une certaine façon, d'avant la célébrité en tout cas. Et il arrache à sa maison de disques Geffen une décision qui est loin de faire l'unanimité, enregistrer l'album suivant de Nirvana dans des conditions spartiates, celles d'un groupe amateur qui ne cherche ni la séduction, ni le succès facile, mais son propre son et sa propre vérité sans altération. Difficile de la part de Geffen de dire non à quelqu'un qui a fait s'envoler votre chiffre d'affaires. Donc, à la fin de l'année 92, Cobain, Novoselic et Grohl partent dans un studio perdu, dans une campagne enneigée du Minnesota. C'est là qu'ils vont enregistrer l'album In Utero dans des conditions, de leur propre aveu, très très dures, sous la direction d'un homme qui à lui seul incarne le credo pur et dur du courant hardcore. Steve Albini, c'est son nom, est quelqu'un qui estime que au-delà d'une semaine en studio, un groupe perd son temps et que s'il y reste au-delà, eh bien c'est qu'il n'est pas prêt ou qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Une très forte personnalité, ce Steve Albini, qui mérite qu'on s'y arrête. Dès le début des années 80, cet étudiant en journalisme, fan de punk rock dans une banlieue de Chicago, a posé pratiquement seul, d'abord armé d'un magnétophone 4 pistes et d'une boîte à rythme Roland, dans sa chambre de dortoir, puis au sein de son groupe Big Black, les bases d'un certain rock industriel américain. Albini a découvert chez les Anglais de Throbbing Gristle, les Français de Metal Urbain aussi, le côté, je dirais, le côté obscur du bruit. Vous savez, ces ambiances froides, aux sons distordus, aux rythmiques mécaniques et répétitives, qui sont à la source d'ambiances et de thèmes malsains propres à un certain courant industriel européen. Albini s'est ainsi imposé au début des années 90 plutôt, comme une référence de la prise de son, celui vers lequel sont allés quantité de chanteurs, chanteuses à l'approche très radicale, notamment PJ Harvey à ses débuts. Et c'est vers Steve Albini qui a donc absolument tenu à aller Kurt Cobain pour enregistrer en 92 donc l'album In Utero, dans le but avoué de casser le succès commercial et l'image de Nevermind. Malgré ses efforts paradoxaux, Cobain n'y parviendra pas complètement. Et quelques mois pourtant après la sortie de In Utero, un album qui va aussi loin que possible vers des sons durs et saturés, eh bien Cobain sera prêt pour une toute autre approche, celle que je vous ai décrite tout à l'heure, la mise à nu que représente le concert dit Unplugged pour MTV, dont je vous ai donc longuement parlé et dont l'enregistrement, je vous le rappelle, paraîtra 6 mois après sa mort. Voici encore un extrait de cet enregistrement, MTV Unplugged in New York. C'est un titre qui est une reprise, c'est pas une composition de Cobain, la reprise d'une chanson qui a été signée dans les années 80 par un groupe folk néo-psychédélique écossais extrêmement obscur, les Vaselines, que Cobain avait découvert lors de son séjour dans la ville de Olympia, c'était pas loin de là où il habitait, un centre du rock alternatif. J'aurai l'occasion de vous parler demain de ces découvertes très insolites, très excentriques qu'a pu faire alors Kurt Cobain dans une émission que je consacrerai à la discothèque idéale totalement inattendu, parfois loufoque, de Kurt Cobain. Cette chanson des Vaselines, reprise par Nirvana, s'appelle « Jesus doesn't want me for a sunbeam ».
Expect me to cry. Don't expect. That was a David Bowie song.
Et oui, il l'a dit, une reprise qui est devenue plus célèbre que l'original The Man Who Sold the World, créé par David Bowie en 1970. Et dans cette version originale, la chanson a été très peu diffusée. On y entend, enfin à l'époque je veux dire, on y entend des paroles surprenantes que Cobain, contrairement à ses habitudes, articule très clairement. Je lui ai parlé les yeux dans les yeux et je lui ai dit « Mais je croyais que tu étais mort, seul, il y a bien longtemps. » Des mots auxquels répond aussitôt l'exclamation « Oh non, pas moi, je n'ai jamais perdu le contrôle. » Te voilà face à l'homme, face à face avec l'homme qui a vendu le monde. Alors Kurt Cobain donne à ses paroles une résonance douloureuse à fleur de peau, tandis que dans la version originale, Bowie les déclamait avec une sorte de théâtralité glaçante, et ce qui suscitait un effet très particulier. Au fond, quand il reprend les mots de Bowie, Cobain sonde le fond de son âme et il ne perçoit rien, sinon une surface qui réfléchit d'autres êtres que lui, des êtres peut-être plus vrais que lui-même, et qui l'ont choisi, lui, enveloppe vide, pour l'envahir et naître à travers lui et surtout l'effrayer. Et peut-être c'est une chanson par laquelle Cobain s'ouvrait de la faille béante qui a traversé toute son œuvre et toute sa vie. Voici à présent une des chansons dans lesquelles Kurt Cobain a exprimé son dégoût et son horreur d'être un homme. Elle s'appelle Rape Me, Viole-moi. Et là, je vous la propose dans une version live. Ce sera suivi d'autres titres tirés de l'album Unplugged.
Mishka Asayas.
Where do bad folks go when they die? Thank you. Thanks for coming. Thank you.
That was the Meat Puppets.
Should I be? the shine, I would shiver the whole night through. The husband was a hard-working man, just about a mile from here. His head was found in a driving wheel, on his body shine, I would shiver the whole night
Je suis heureux qu'on ait pu diffuser intégralement ce titre, Where Did You Sleep Last Night, qui figure dans l'album MTV Live Unplugged in New York de Nirvana. C'est une reprise d'un blues, un folk blues archaïque qui avait été popularisé par Led Belly, qui était un ouvrier agricole louisianais qui avait été arrêté au Texas pour meurtre. Il avait fait 30 ans dans un pénitencier. C'est des musicologues, le père et le fils Lomax, qui l'avaient découvert. Et cette chanson, on la connaît aussi sous le nom de In the Pines, et Cobain en livre enfin, c'est bouleversant. Voilà, c'est tout pour ce soir. On retrouvera demain la discothèque idéale, entre guillemets, de Kurt Cobain. Je remercie chaleureusement Stéphane Ronxin qui a réalisé l'émission. C'était Clément Vie à la technique. Merci également à Guillaume Cohener comme à Romain Couturier.